Bonjour, bienvenue dans ce deuxième jour. Aujourd'hui, on va parler d'autonomie, comment permettre à l'enfant de gagner en autonomie. Très souvent, on fait à la place de l'enfant pour gagner du temps, parce qu'on fait mieux, plus vite et qu'on est plus efficace. Et c'est normal, l'enfant ne maîtrise pas encore le bon geste, il se trompe, il recommence, ou alors il est dans ses pensées, donc il traîne. Ça, on le connaît tous. Nous, en tant qu'adultes, ça nous agace forcément parce que ça va pas assez vite par rapport à notre emploi du temps, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, et on voit les conséquences sur après. Alors que lui, l'enfant, il est dans le moment présent. Donc du coup, comme on voit qu'on prend du retard sur le reste, qu'on va être en retard, que ça traîne, etc., on fait à sa place. Parce que sinon, on le presse, et que si on le presse, ça crée une mauvaise ambiance, on va stresser l'enfant par notre propre stress, et au final, très souvent, l'adulte fait à la place de l'enfant. Je lisais l'autre jour dans un livre l'histoire d'un garçon de 10 ans qui ne laçait pas ses chaussures et qui, pour y pallier, prenait toujours des chaussures à scratch. Quand on a demandé à sa maman pourquoi son fils ne laçait pas ses chaussures, elle a répondu qu'elle avait bien essayé, mais, entre guillemets, donc je cite, qu'il n'allait pas assez vite et n'était pas doué pour cette tâche. Alors du coup, pour éviter les conflits et surtout pour éviter de perdre du temps, elle faisait à sa place. On parle juste vraiment de lacets de chaussures. Ensuite, on a demandé au jeune garçon pourquoi il n'essayait pas d'apprendre à faire ses lacets au lieu de toujours acheter des chaussures avec des scratchs. Et lui, il a répondu, là encore je cite, « J'en ai marre de voir que ma mère me trouve trop nulle pour faire mes lacets comme un grand. Un jour, j'ai bien réussi à les faire, mais ma mère m'a dit que ce n'était pas la bonne méthode. Et après, elle m'a dit que même mon petit frère y arrivait mieux. Je me suis énervée, ma mère aussi. Alors j'ai décidé que je mettrais des scratchs. Comme ça, maman ne me criera plus dessus pour ça et ne me dira plus que je suis nulle. Mais c'est vrai que je ne suis pas très douée de mes mains, de toute façon. » J'aimerais vous dire qu'il faut absolument qu'on apprenne à laisser le temps aux enfants. Parce qu'apprendre demande du temps. L'exemple que je viens de vous citer, il illustre parfaitement le fait que les apprentissages demandent du temps. Et selon les apprentissages, ça va être plus ou moins laborieux, plus ou moins long. Il faut se tromper, il faut recommencer encore et encore, et ça demande du temps. Mais il faut être conscient que l'enfant, il va y arriver un jour. Sauf si on fait à sa place. Si on fait à sa place, on élimine le processus d'apprentissage et on envoie comme message à l'enfant qu'il est trop nul et qu'il faut qu'il nous laisse faire. Parfois, bien sûr, c'était trop tôt. Quand on a voulu laisser l'enfant faire quelque chose, c'était trop tôt, l'enfant n'était pas prêt. C'est pas grave, on peut réessayer plus tard. Mais dans tous les cas, on doit permettre à l'enfant d'expérimenter, de s'entraîner. Et c'est difficile, mais on doit apprendre à être patient, patiente. Parce que c'est cette patience qui fera qu'on gagnera du temps sur le long terme et que l'enfant deviendra de plus en plus autonome. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'apprendre demande du temps. Pour l'enfant aussi, apprendre est un vrai travail. On apprend en faisant bien mieux qu'en écoutant. Faire, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et pour l'enfant, apprendre, c'est un travail à temps plein. Il ne fait que ça depuis qu'il est né. Il apprend à reconnaître les personnes, il apprend à prendre des objets avec ses mains, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à s'habiller tout seul, il apprend à aller aux toilettes tout seul, et ainsi de suite. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, de la concentration, de la mémoire, et du coup, il a besoin de s'entraîner. Pour gagner en autonomie, l'enfant a besoin qu'on le laisse faire, tout simplement. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'enfant, vers 2 ans, traverse une phase de non et d'énervement, parce qu'il veut faire par lui-même. C'est ce qu'on appelle souvent le « terrible 2 ». Et il démontre que l'enfant gagne en autonomie. Il a envie de faire plein de choses, lui, tout seul, comme les grands. Et il gère très très mal la frustration quand on fait à sa place. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que parce qu'il veut tout faire, on doit le laisser tout faire. Il y a des choses, il n'est pas prêt à les faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais quand il est dans cette quête d'autonomie, il faut profiter de ça pour le laisser apprendre. C'est son travail. Et en grandissant, même si c'est moins visible, les processus sont pourtant les mêmes. L'enfant, il a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a besoin qu'on lui donne du travail. Il a besoin de se sentir capable. Il aime qu'on le félicite quand il est arrivé. Il a besoin qu'on soit fier de lui. C'est pas seulement ses capacités manuelles ou intellectuelles qu'on l'aide à développer en le laissant faire. C'est vraiment sa confiance en lui. Un autre point important, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie dans les apprentissages scolaires s'il n'y a pas d'autonomie dans la vie quotidienne. Et si vous pratiquez l'instruction à la maison, vos enfants ont aussi besoin de gagner en autonomie dans leurs apprentissages. On peut permettre à l'enfant d'être autonome, c'est-à-dire de travailler par lui-même, de faire ses propres recherches, de faire ses exercices sans avoir besoin de nous toutes les 2 minutes. L'enfant peut aussi être autonome dans sa gestion du programme ou encore dans sa gestion des heures de travail. Si vous avez des enfants qui vous sollicitent tout le temps, ça peut paraître impossible ou même idéaliste, mais je vous assure, c'est vraiment possible. Bien sûr, il y a aussi des enfants qui ont des caractères qui font que naturellement, ils sont plus ou moins autonomes. Mais je pense vraiment que la manière dont on accompagne l'enfant peut l'aider à gagner en autonomie. Et ça, c'est vraiment possible dès son plus jeune âge. Mais comme le dit le titre de ce paragraphe, pour permettre à l'enfant d'être autonome dans ses apprentissages scolaires, il faut d'abord lui permettre d'être autonome dans la vie. Un autre point qui est très important, c'est qu'on n'est pas l'esclave de notre enfant. Le revers de la médaille lorsqu'on fait tout à la place de nos petits, c'est qu'une fois qu'ils sont plus grands, ils ont pris l'habitude qu'on fasse à leur place. Et alors qu'on voulait aller plus vite, on se retrouve à tout faire et on n'a plus de temps pour soi. Du coup, gagner du temps en faisant systématiquement la place de l'enfant quand il est petit, c'est devenir petit à petit son esclave domestique. Et ça, c'est terrible parce que la majorité des parents qui sont dans ce cas ne réalisent pas que c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation. Heureusement, on peut tous en sortir, ce qui ne va pas plaire aux enfants au début, évidemment, puisqu'on va les mettre au travail, mais qui est salutaire pour toute la famille. Alors, comment développer l'autonomie des enfants au quotidien? Si vous êtes d'accord, eh bien, je vais vous donner des pistes pour apprendre aux enfants à gagner en autonomie. Bien évidemment, c'est à adapter selon l'âge des enfants, mais je vous assure qu'on a tendance à les sous-estimer alors qu'ils peuvent participer à de nombreuses choses. Le premier domaine où ils peuvent gagner en autonomie, c'est dans le rangement de leurs affaires. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné hier avec Janae, dès que l'enfant est capable de se retourner, de s'asseoir, dès qu'il peut prendre un objet dans la main, eh bien, il peut participer au rangement de ses jouets, en les mettant dans une boîte. Tout part de là. Au début, ça va l'amuser. Évidemment, il fait comme papa-maman, il se sent grand, c'est cool. Ensuite, plus du tout, parce que là, il se rend compte que tous les jours, il doit recommencer. Et ça, en plus, quand on lui demande. Donc forcément, ça l'amuse plus. C'est là qu'il faut tenir bon. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer ça. Je me rappelle d'une fois où j'étais venue voir un ami avec Janae, elle avait moins de 2 ans, et j'avais pris un sac de Lego pour qu'elle s'amuse avec. Au moment de partir, elle ne voulait pas ranger les Lego dans le sac. Alors évidemment, je l'ai aidée, je n'allais pas la laisser tout ranger, mais je lui en ai laissé assez pour elle aussi, parce que comme je vous l'ai dit, même si on aide et qu'on fait avec l'enfant, eh bien, il faut lui laisser sa part, il faut qu'il comprenne aussi qu'il a sa part de responsabilité. Je peux vous assurer qu'elle a dû mettre 20 minutes à ranger 6 ou 7 Lego que j'avais laissés. Elle ne voulait pas les ranger, ça l'a saoulée. C'était vraiment la raison du fait qu'elle ne voulait pas le faire. Il faut savoir qu'à 2 ans, Janae parlait très bien, et donc on savait exactement ce qui se passait dans sa tête, parce qu'elle l'exprimait. Et donc, l'ami en question me disait que ça irait beaucoup plus vite si je rangeais à sa place. Je lui ai dit que oui, c'était vrai. Mais à ce moment-là, je n'étais pas spécialement pressée et je savais aussi que si je faisais à sa place, elle reproduirait la même chose une prochaine fois. Donc, elle a fini par ranger ses jouets. Je l'ai félicitée. Je lui ai dit que la prochaine fois, si elle faisait plus vite et qu'elle perdrait moins de temps bêtement et que moi, ça éviterait de m'agacer aussi. Et il n'y a jamais eu de prochaine fois. C'est-à-dire que même si elle n'a pas toujours eu envie de ranger, et des fois, ça arrive encore, elle sait que ça fait partie de la vie quotidienne. On utilise, on range. On joue, on range. Je ne lui demande pas de ranger mes affaires. Son père ne me demande pas de ranger ses affaires. Donc, chacun range ce qu'il dérange. Pour faciliter ça, évidemment, il faut que chaque chose ait une place. Il faut que le rangement soit facile. Une boîte pour la dinette, une boîte pour les Playmobil, une boîte pour les jeux de société, etc. Ça, c'est des choses que je vous ai déjà un peu expliquées hier. Mais du coup, voilà, pour le rangement, avec les enfants, c'est possible de leur permettre de gagner en autonomie, de ranger, dès qu'ils sont jeunes. Le deuxième domaine, c'est le fait de s'habiller, de faire leur propre toilette. Quand votre enfant se sent prêt pour ça, en fait, il va vous le demander de lui-même. D'ailleurs, c'est durant cette phase que c'est très pénible parce que l'enfant veut tout faire par lui-même, je vous disais, le terrible two, mais il met beaucoup de temps, il est super lent. Et je vous rassure, c'est pas pénible que pour nous ou l'adulte, hein, parce que pour lui aussi, c'est pénible parce qu'il se sent prêt, il a envie de le faire. Et nous, on veut quand même faire à sa place. Et surtout, ben, même s'il a envie de le faire, il n'arrive pas à faire comme il l'imagine dans sa tête et comme il croit qu'il est capable de le faire. Donc, dans tous les cas, ça agace un peu tout le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider à passer cette transition en douceur. On commence petit, en laissant l'enfant faire une chose, puis deux, puis trois. Il se sent valorisé, il devient autonome jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout besoin d'intervenir. Et c'est génial quand à 4 ans, votre enfant peut prendre sa douche tout seul, se sécher tout seul, s'habiller tout seul et venir vous voir tout fier en vous disant « J'ai fini maman, tu peux aller ranger les serviettes en haut ». Voilà, évidemment c'est du vécu, c'est un exemple fait avec Janae, mais c'est pour vous dire. Comme je vous le disais hier, on peut aussi permettre à l'enfant de faire sa toilette de chat seul assez jeune. On lui mouille nous-mêmes le gant, on lui indique où nettoyer et comment. Et puis pour la toilette aussi, il peut apprendre à se laver les dents, à se coiffer, à se laver le visage, tout plein de petits gestes qui font qu'il gagne en autonomie et que nous, on gagne du temps quand il le fait lui. Le troisième domaine, c'est le fait de participer aux tâches ménagères. Là encore, on commence petit et on augmente. Ça peut être mettre la table ou la débarrasser, passer la balayette pour ramasser les miettes ou l'aspirateur. Ça peut être changer sa tête d'oreiller quand on change les draps de son lit. Il peut ensuite apprendre à faire sa chambre tout seul, à faire la vaisselle, à étendre le linge, à arroser les plantes, à préparer un repas par semaine, etc. Tout ce que vous faites, vous pouvez le déléguer et le partager avec vos enfants. Je vous donne 2 exemples. Janae, à l'heure où je fais cet enregistrement, a 5 ans et demi. Elle passe la balayette dans la caravane le matin. Moi, je le fais le soir. Elle met également la table. Elle la débarrasse. Elle range sa chambre toute seule. Je laisse juste à mettre son pyjama dans le casier du haut. Et donc ça, elle le fait plusieurs fois par semaine. Un deuxième exemple vient de mon expérience d'enfant. Donc, nous étions 6 enfants et on participait tous aux tâches ménagères. À 16 ans, c'est vraiment juste pour vous donner à 16 ans ce que je faisais, je nettoyais en plus de ma chambre, je nettoyais la salle de bain et les WC, j'aidais à nettoyer le salon. Ça, c'était pour la mission de la semaine. Et sinon, chaque jour, selon un planning bien rodé, on avait un planning, enfin voilà, chaque enfant avait une tâche précise. Soit je mettais la table, soit je la débarrassais, soit je passais le balai, soit je faisais la vaisselle, enfin voilà. Tous ceux qui vivent sous un même toit ont des droits et des devoirs. Et quand on missionne les enfants, non seulement on gagne du temps pour soi, mais on leur apprend à être autonome pour voler aussi de leurs propres ailes et pour pouvoir s'assumer aussi. Maintenant, j'aimerais parler un peu de l'autonomie dans les apprentissages. Une fois que l'autonomie dans la vie quotidienne est en route, on peut commencer à parler d'autonomie dans les apprentissages. Je vais vous parler de quelques pistes pour ne pas avoir besoin d'être toujours à côté de votre enfant lorsqu'il travaille ou lorsqu'il fait des activités. Donc ça s'applique autant aux enfants instruits à la maison qu'aux enfants qui sont scolarisés mais qui ramènent des devoirs à la maison et qui ont peut-être besoin de gagner aussi en autonomie dans leur manière de faire leurs devoirs. Donc déjà, la première chose super importante, c'est que l'enfant doit comprendre qu'il est responsable de ses apprentissages. J'aime bien cette phrase d'Elbert Hubbard qui dit « On peut forcer un enfant à aller à l'école, mais on ne peut pas le forcer à réfléchir. » Vous pourrez aussi forcer votre enfant à apprendre, à travailler sur ses leçons à la maison. Vous pouvez le forcer à apprendre ses tables de multiplication, à répéter 10 fois une même poésie, à faire des calculs et des calculs pour comprendre comment fonctionne le calcul, etc. Mais vous ne pourrez pas le forcer à réfléchir. Tout simplement parce que ça doit venir de lui. Et pour que ça vienne de lui, il doit comprendre qui est responsable de ses apprentissages. Alors comment on fait ? Eh bien, moi je pense que le plus simple, c'est de lui expliquer. De lui dire, écoute, je suis ta maman, je suis ton papa, je veux que tu sois heureux dans la vie. Et ça passe par acquérir certaines connaissances. Je pourrais t'obliger à t'asseoir et à apprendre par cœur. Je pourrais t'obliger à faire des exercices. Je pourrais t'obliger à recommencer jusqu'à ce que tu aies compris. Mais je ne peux pas t'obliger à t'y intéresser, ni à aimer. Alors je vais essayer de t'expliquer pourquoi je pense que c'est important. Et ensuite, toi, tu vas me dire pourquoi tu penses que c'est important. Donc ensuite, on va discuter avec l'enfant, on va lui dire, ben voilà, pour moi, je pense que c'est important que tu sois capable de réfléchir, que tu sois capable de faire des exercices qui te paraissent compliqués, que tu sois capable d'apprendre telle ou telle matière, etc. C'est vraiment personnel, c'est à vous de partager ça avec votre enfant, de lui expliquer, vous, pourquoi vous pensez que c'est important. Et ensuite, vous dites à l'enfant, alors toi, pourquoi tu penses que c'est important ? L'enfant, il a besoin de trouver au fond de lui une raison aux apprentissages. Quand il l'aura trouvé, il trouvera la motivation qui va avec. Et là, on pourra être là pour l'épauler. Mais pour le tirer vers le haut, en sachant qu'il est en train de grimper lui-même. Pas pour le tirer à bout de bras. Vous voyez la différence ? Donc vraiment, il doit comprendre qu'il est responsable de ses apprentissages. Deuxièmement, on peut aider l'enfant à connaître son profil d'apprentissage. L'enfant, pour être autonome dans ses apprentissages, il a besoin de savoir comment il apprend le mieux, à quel format il est le plus sensible, qu'est-ce qu'il fait le plus écho en lui, etc. Bien se connaître, c'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle et c'est vraiment une réelle compétence. Je vais préparer une formation complète pour aider à déterminer comment on apprend, pour que chaque adulte puisse aider son enfant ou son élève en suivant des étapes pas à pas, pour comprendre comment il apprend et du coup à déterminer quel est son profil d'apprentissage. Mais ça, c'est une formation qui sera disponible à l'heure où je suis en train de faire cette formation actuellement que vous êtes en train d'écouter. Cette formation sera disponible dans quelques mois. Mais voilà, peut-être que quand vous achèterez cette formation que vous êtes en train d'écouter, peut-être qu'elle sera déjà disponible. En tout cas, c'est en projet. Et en attendant, vous pouvez déjà l'aider grâce aux différents articles que j'ai fait sur le blog. Il y en a un qui s'appelle « 7 profils d'apprentissage », un autre qui s'appelle « Le bouquet des intelligences » et un autre qui s'appelle « Les intelligences multiples pour mieux apprendre ». Alors, dans le PDF, j'ai mis les liens. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour tomber direct sur les articles. Sinon, vous tapez les titres que je viens de vous donner sur Google et vous mettez « Anestel » à côté. Et normalement, vous devrez tomber sur l'article en question. La troisième chose importante, c'est qu'il faut permettre à l'enfant d'augmenter sa liberté d'action. Pour être autonome, il faut avoir le choix, donc être libre de choisir. Si vous voulez augmenter l'autonomie de votre enfant dans ses apprentissages, il faut lui permettre d'être libre de choisir. Alors, comment ? Eh bien, en lui laissant le choix. Et quel genre de choix ? Ben, voici quelques exemples. Vous pouvez lui laisser le choix par quel devoir il veut commencer, par exemple. S'il a plusieurs devoirs par lesquels il veut commencer. Quelles leçons il souhaite étudier aujourd'hui ? Quels horaires et quelles fréquences de travail chaque jour ? Comment il veut travailler ? Est-ce qu'il veut avancer dans une matière pendant une semaine, puis une autre la semaine suivante ? Ou est-ce qu'il veut répartir les différents cours sur la semaine ? Ça, c'est propre aux enfants qui sont instruits à la maison. Quels sont ses objectifs pour la semaine, le mois, l'année ? qui puisse lui-même définir ses objectifs. Est-ce qu'il veut travailler avec du formel ou pas? Voilà, tout est envisageable, de la plus petite autonomie à l'autonomie totale et parfaite. Il existe des enfants dont les parents ne se mêlent de rien en matière d'apprentissage. Moi, j'ai entendu un exemple d'une fille qui, à partir du collège, ses parents ne suivaient plus rien dans ses apprentissages. Elle faisait tout elle-même. Et quand elle a voulu... Enfin, sa mère, pour être sûre qu'elle avait le niveau, etc., elle a demandé à sa fille de s'inscrire au lycée. Je crois que c'était en seconde ou en première, je ne sais plus. Oui, c'était au lycée, c'est une année du lycée, pour voir à peu près son niveau. Et en fait, la fille, elle est restée quelques jours en classe, mais elle s'ennuyait tellement. Elle a dit à sa mère, « Maman, ça, je l'ai déjà vu, je m'ennuie, je préfère être à la maison et avancer à mon rythme, etc. » Et en fait, son programme, elle le torchait en très peu de temps, quoi. Et si elle avait une difficulté, elle cherchait sur Internet, ou alors elle demandait à sa mère pour avoir un cours à domicile. Vous savez, on peut engager quelqu'un qui vient une fois par semaine pour nous faire un cours, enfin pas un cours, mais ouais, une aide aux devoirs ou un truc comme ça, juste pour 2 heures par semaine, et puis en suivant le programme, etc. Ça, on peut trouver pour toutes les matières et sur le bon coin même. Tu peux trouver des gens qui font ça, de l'aide aux devoirs ou prof à domicile, mais c'est pas forcément des profs, hein. Des fois, c'est des étudiants qui viennent, etc. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai déjà entendu, mais... Il existe des enfants dont les parents ne se mêlent de rien. L'enfant autogère son travail, ses manuels, ses cours, ses objectifs, bac ou pas bac, etc. Et pour être honnête, c'est notre objectif avec Janaï. Lui permettre d'être autonome à 100% dans ses apprentissages. Donc on a fait le choix de ne jamais la forcer à faire quelque chose. Et force est de constater que d'elle-même, elle se fixe des objectifs qu'on n'aurait pas envisagés du tout pour son âge. De l'autre côté, elle n'a pas encore le niveau, je mets bien entre guillemets, sur d'autres domaines par rapport à d'autres enfants de son âge, parce qu'elle, elle ne trouve encore aucun intérêt. Donc il faut beaucoup de confiance pour accepter l'idée que l'enfant, quand il a un intérêt, il va trouver la motivation et les solutions à n'importe quel problème en matière d'apprentissage. Mais c'est pour dire que vous pouvez, si vous ne croyez pas à ça, les apprentissages autonomes, etc., que c'est vraiment un saut dans le vide, il y a des petits pas à faire et il y a des choix que vous pouvez laisser à votre enfant faire. Et quand vous le laissez choisir certaines choses, des petites choses, puis ensuite vous pouvez augmenter, il gagne en autonomie dans ses apprentissages, il gagne en confiance en lui, et vous aussi vous gagnez en confiance en lui-même. C'est-à-dire que ça développe aussi la confiance que vous avez en lui, parce que vous voyez qu'il s'en sort très bien. Quatrième astuce, c'est le fait de fixer ensemble des objectifs réalisables. Vous souhaitez rendre votre enfant autonome dans son travail, et bien fixez ensemble des objectifs réalisables. J'ai bien dit ensemble, parce que l'enfant il gagne en autonomie à participer à l'élaboration de ses propres objectifs. Il va déterminer s'il se sent capable ou non de le faire, et s'il se sent capable de le faire, il se donne beaucoup plus les moyens, parce qu'il aura fixé lui-même l'objectif. Pour un petit, ça peut commencer par « ça te dit de colorier ce dessin en t'appliquant pour ne pas dépasser ?» Quand tu auras fini, on trouvera un autre super travail pour toi. Bien sûr, les objectifs des petits-enfants sont des objectifs réalisables sans y passer trop de temps, surtout dont le résultat est visible tout de suite, parce que c'est très motivant et très stimulant, et que du coup, ça encourage l'enfant. Plus l'enfant va grandir, plus il a besoin de voir que les objectifs ne prennent pas non plus trop de temps, car ça va le décourager, surtout si c'est un travail qui ne lui plaît pas là-bas. C'est pourquoi donner des objectifs atteignables en 10 ou 15 minutes maximum. Ensuite, l'enfant peut faire un break qu'il va définir lui aussi pour se détendre et changer les idées. Par exemple, ça peut être écouter une chanson qu'il aime bien, ça peut être danser, ça peut être lire un chapitre de son livre qu'il aime, etc. Donc, des séances de 10 ou 15 minutes avec un objectif à atteindre. Après, on fait une pause et après, on fait une autre séance de 10-15 minutes avec un autre objectif. Plus l'enfant grandit, plus les objectifs peuvent être longs, mais eux-mêmes doivent toujours être séparés en plusieurs étapes pour que l'enfant voie la progression. C'est très important, parce que si l'enfant a l'impression de ne pas avancer, non seulement il va vous solliciter, parce qu'il va avoir besoin d'aide tout le temps, ou alors il va perdre sa motivation, et du coup, il va perdre du temps. Alors que s'il réussit ses premiers objectifs, petit à petit, il va prendre confiance en lui, il va se challenger, il va être fier de les atteindre au fur et à mesure, etc. Et c'est comme ça que l'autonomie grandit, en même temps que la confiance en soi. Et ce qui grandit en même temps que l'autonomie, c'est le temps pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, pour ça, d'un super outil qui s'appelle le booster d'autonomie. C'est un outil qui a plusieurs objectifs. Déjà, ça va permettre à l'enfant de gagner en autonomie avec des missions précises et des missions réalisables. Ça va vous permettre à nous adultes de gagner du temps pour nous en confiant certaines tâches à l'enfant. Ça va nous permettre à nous de valoriser les missions réussies de l'enfant. Donc, on est dans quelque chose de très positif là aussi. Et enfin, ça permet de voir la progression au quotidien. Alors, je vais vous détailler les étapes pour réaliser ce booster d'autonomie. Vous allez faire un tableau avec chacun de vos enfants. Dans ce tableau, vous allez faire Avant de faire ce tableau, pardon, vous allez définir 3 missions précises que l'enfant devra faire chaque jour, ainsi qu'une super mission par semaine. Donc, 3 missions précises que l'enfant devra faire chaque jour. Ça peut être, je ne sais pas moi, je prends l'exemple de Janae. Elle a 5 ans et demi, bah, presque 6 ans. Ça peut être penser à se laver les dents après le repas du petit-déj et après le soir sans qu'on ait besoin de te le dire et bien les laver. Ça peut être une mission, bien se laver les dents. Une deuxième mission, ça peut être lire au moins un chapitre d'un livre par jour. Troisième mission, ça pourrait être de penser à plier son pyjama et à ranger sa robe de chambre une fois qu'elle est habillée le matin. 3 missions précises chaque jour que l'enfant doit faire. Voilà, ça c'est 3 exemples. Ensuite, une super mission par semaine. La super mission par semaine, ça peut être faire la vaisselle. Ça peut être à 5 ans et demi, 6 ans, ça pourrait être aider à laver la voiture. Ça pourrait être ranger la chambre et retrier tous les papiers dans la chambre. Voilà, une super mission qui est de l'ordre de quelque chose qui appartient au quotidien. Ça peut être aider à étendre le linge, ça peut être, voilà. C'est vraiment des exemples qui me passent par la tête. Donc, j'explique à mon enfant pourquoi ces missions et comment on va les faire. Donc, 3 missions quotidiennes plus une super mission par semaine. Et je fais un tableau. La première colonne, c'est pour noter les missions ainsi que la super mission. Ensuite, je fais une colonne pour chaque jour de la semaine. Donc, du coup, vous allez avoir 8 colonnes. Une pour noter les missions et une pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'accroche le tableau sur le frigo ou ailleurs. L'important, c'est que l'enfant puisse le visualiser et le remplir au fur et à mesure. Et je mets à disposition de l'enfant des gommettes rouges, des gommettes vertes ou alors des feutres, un rouge, un vert. Dans les lignes, je mets une ligne avec la mission 1, une ligne avec la mission 2, une ligne avec la mission 3 et une ligne avec la super mission. Voilà. Ensuite, chaque jour, l'enfant devra mettre une gommette verte s'il a réussi sa mission ou une rouge s'il ne l'a pas réussi. Si on n'a pas de gommette, on fait un point avec le feutre de la bonne couleur. Et ça, les enfants peuvent le faire un point ou faire un rond. Et maintenant, pour que le booster d'autonomie fonctionne, il faut bien respecter les étapes suivantes. Première étape, je félicite l'enfant pour chaque point vert. Et je ne dis rien pour les points rouges. L'objectif, c'est de booster l'autonomie de manière positive, en valorisant et pas en culpabilisant et pas en faisant du chantage. D'accord ? Donc, je félicite l'enfant pour chaque point vert et je ne dis rien pour les points rouges. Je ne fais jamais de menace aux points rouges. Du genre, si tu ne fais pas ceci, tu auras un point rouge. L'idée, c'est de booster l'autonomie par la valorisation et non par la culpabilisation. Troisièmement, à la fin de la semaine, on fait le point. S'il y a au moins 15 points verts, on récompense l'enfant. Alors la récompense n'est pas forcément matérielle, ça peut être une sortie, ça peut être une balade, ça peut être un jeu que l'enfant veut qu'on fasse avec lui, mais on dit tout le temps pas celui-là, je l'aime pas, ou pas maintenant, etc. Ça peut être une activité manuelle ensemble, ça peut être regarder un film, ça peut être voilà, plein de choses comme ça, une petite récompense. S'il y a trop de points rouges, c'est-à-dire qu'il y en a, il n'y a pas 15 points verts, il n'y a pas la récompense, on encourage l'enfant en lui disant qu'il fera mieux la semaine prochaine. Ou alors on lui montre qu'il a déjà progressé, par exemple entre la fin et le début de la semaine, ou alors entre cette semaine et la semaine dernière. Le booster d'autonomie, c'est un outil de valorisation, comme je l'ai déjà dit, et il faut que l'enfant se sente en réussite pour qu'il ait envie de se donner les moyens d'y arriver. Donc du coup, vous vous demandez sûrement quelle mission donner. Alors, je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais tout dépendra de l'âge de ses enfants, de ses capacités, de vos attentes, etc. Donc, voici d'autres exemples. Faire ses devoirs après le goûter à 17h30, ou alors je fais ma toilette tout de suite après le repas, je range ma chambre avant d'aller dormir, je mets la table sans râler, je m'habille tout seul avant que le minuteur ait sonné, par exemple 10 minutes. Je lis un chapitre par jour, etc. Bref, les idées, c'est pas ça qui va manquer. Entre les tâches ménagères, le rangement, la toilette, les apprentissages, ces différents domaines dans lesquels on souhaite que l'enfant gagne en autonomie pour gagner du temps, et ben on pioche là-dedans en fonction de notre enfant. Mais il faudra vous contenter de 3 missions par jour et c'est tout. Parce que sinon, ça va être trop dur pour votre enfant. S'il a trop d'objectifs, il va avoir l'impression que c'est mission impossible. Donc, c'est seulement une fois que ces missions deviennent des routines qu'on peut alors considérer qu'elles sont acquises et qu'on peut en mettre 3 nouvelles en marche. Et concernant la super mission, il faut que ce soit quelque chose que l'enfant ne fait qu'une fois par semaine, comme préparer un repas, laver les vitres, ou pour des plus jeunes, ranger, balayer la chambre, changer la litière du chat, vider la poubelle, enfin voilà. Des super missions qui pourront devenir des missions du quotidien dans quelques semaines ou dans quelques mois, quand l'enfant aura bien grandi. Alors, du coup, je vais vous présenter un récapitulatif comme hier, pour permettre à votre enfant de gagner en autonomie et à vous de gagner en happy hours. C'est quelque chose de difficilement quantifiable sur le moment. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit combien de temps vous allez gagner. Mais sur la durée, ça va vous faire gagner de nombreuses heures chaque semaine. Alors, premièrement, quand l'enfant vous demande de faire seul, laissez-le essayer. Objectif numéro 2. Si besoin, prévoyez un temps de préparation plus long. Par exemple, si vous savez que votre enfant va vouloir mettre ses chaussures et sa veste tout seul avant de sortir, permettez-lui plusieurs fois dans la semaine de le faire en anticipant, en lui disant de se préparer 15 minutes avant de sortir, par exemple. Troisièmement, profitez de sa période sensible de l'ordre. Maria Montessori a mis en évidence qu'il y a des périodes sensibles chez l'enfant, dont une qui concerne l'ordre, entre 0 et 6 ans. Donc ça dépend des enfants, des fois c'est plus ou moins jeune, mais en tout cas entre 0 et 6 ans, chaque enfant devrait traverser sa période sensible de l'ordre. Durant cette période, l'enfant est très sensible à l'ordre extérieur pour pouvoir construire son ordre intérieur. Par exemple, il aime que les objets doivent être à leur place, il aime pouvoir les retrouver les yeux fermés, il aime les routines, qu'elles soient respectées, etc. C'est une période excellente pour donner l'habitude aux petits bouts de participer à cet ordre et de ranger les choses à leur place. Quatrième objectif, réaliser votre booster d'autonomie pour chacun de vos enfants avec 3 missions quotidiennes et 1 super mission par semaine. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà beaucoup d'éléments que je vous ai donnés. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à demain pour la suite. Et je vous laisse avec ce proverbe chinois qui résume tout de l'importance de l'autonomie. Si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui du poisson. Si tu veux le nourrir tous les jours, apprends-lui à pêcher. Toute la nuance est là. Allez, à demain.